Alors j'entreprends de compléter, de prolonger mon propos de la semaine dernière, mais si vous avez raté l'épisode précédent, c'est pas grave. Donc je vous ai placé à la fin de l'évangile de Jean et avant la longue prière de Jésus, les longs propos de Jésus qui se terminent par une prière, qui termine l'évangile de Jean. Maintenant je voudrais nous placer à la suite de cette prière, donc au chapitre 18 de l'évangile de Jean. Juste avant ce chapitre 18, Jésus a longuement annoncé son départ et il a cherché à préparer ses disciples à son départ. Il a prié pour eux, donc, pour qu'ils soient préservés du mal, entre autres. Chapitre 17, verset 15. Et puis au début du chapitre 18, Jésus est exposé, Jésus est trahi par un de ses disciples, qui le livre à une cohorte de soldats. Et à partir de là, Jean va comme dédoubler le récit. En décrivant, bien sûr, parce que c'est un récit, il faut écrire les choses à la suite, les unes des autres, mais il va décrire deux scènes qui se déroulent en même temps, mais il va le décrire en passant d'une scène à l'autre. Et si nous étions dans un film, ce serait la technique de l'écran partagé. Il y a une diapo qui me manque. Voilà. Split screen. Excusez mon accent anglais. Non, mon accent français plutôt. Et donc je vous propose cette lecture à partir du verset 12. Et de commencer à la droite de l'écran, où la caméra, si je puis dire, suit Jésus. La cohorte, le tribun militaire et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et le lièrent. Ils le conduisirent d'abord à Anne. Alors c'est un homme. Dans certaines traductions, on a mis un H pour éviter les malentendus. Voilà. Ils le conduisirent d'abord à Anne. C'était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Ce Caïphe qui avait donné aux Juifs le conseil suivant, « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » À droite de l'écran. Juste après, à gauche de l'écran, la caméra suit Simon, Pierre, qui est peut-être le disciple le plus mis en évidence dans les évangiles. Simon, Pierre, ainsi qu'un autre disciple suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre, lui, se tenait dehors, près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la gardienne de la porte et fit entrer Pierre. Alors la servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Est-ce que tu n'es pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je ne le suis pas. » Les esclaves et les gardes se tenaient là, ils avaient fait un feu de braise, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Nous revenons à droite de l'écran. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé ouvertement au monde. » J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Ce dont j'ai parlé, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Ils savent bien, eux, ce que moi j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce que c'est comme ça que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve-le, et si j'ai bien parlé, pourquoi me bats-tu ?» Alors Anne l'envoya lié à Caïphe, le grand prêtre. Et nous revenons à la droite de l'écran. Gauche, merci. Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit, N'es-tu pas toi aussi un de ses disciples ? Il le nia en disant, je ne le suis pas. Un des esclaves du grand prêtre, qui était parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille au moment de l'arrestation, dit, mais est-ce que je t'ai pas vu, moi, dans le jardin, avec lui ? Pierre le nia encore. Et aussitôt, un coq chanta. Jusqu'ici, la lecture. Donc, à droite de l'écran, un homme qui a les mains liées, un homme qui est entouré, qui est entraîné, qui est poussé, qui est conduit par une cohorte armée, qui est rigoureusement privé de mouvement, limité en tout cas de mouvement, qui est en, comme on dit, en état d'arrestation. Et en même temps, au même moment, à gauche de l'écran, un homme qui, lui, peut faire ce qu'il veut de ses mains, qui est libre de ses mouvements. À droite de l'écran, un homme qui est conduit devant les autorités de l'époque, religieux, militaire, politique, qui est conduit au cœur du palais de justice, qui est confronté à des juges, qui est au contact de personnes qui ont pouvoir sur lui, de vie et de mort. Et il va passer comme ça dans la suite du texte, et déjà un peu de main en main. Et à gauche de l'écran, un homme qui évolue, lui, un peu en périphérie, dans la cour du palais, à l'extérieur, au contact d'hommes et de femmes qui sont plus ordinaires, qui sont seconds, qui sont secondaires, une concierge, des serviteurs. Et qui lui, ce à quoi il est exposé directement, c'est au froid, pas beaucoup plus. Et avec eux, avec les serviteurs, eh bien, il se chauffe les mains. À droite, un homme qui ne semble pas beaucoup avoir de marge de manœuvre. À gauche, un homme qui semble en avoir tellement davantage. Et pourtant. L'homme à droite de l'écran confesse sa foi. Il ne se dérobe pas. Il ne se cache pas, il ne fait pas comme si, pas semblant. Et même, alors je ne l'ai pas lu, mais plus haut dans le texte, si vous lisez le début du chapitre 18, lorsque les soldats s'étaient approchés, non seulement, il s'était porté lui-même à leur rencontre. C'est moi. L'homme qui est à gauche de l'écran, lui fait défection à sa foi. Il se dérobe, il se cache. Et quand des servants l'interrogent, c'est pas moi, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Erreur sur la personne. Et on pressent probablement l'intensité, la complexité de ce qui se joue. Car si, alors je l'ai pas lu, mais si on reprend ce qui précède dans le récit, on se rend compte que Pierre n'est pas présenté pour autant comme un lâche. Quand Jésus avait dit aux soldats, c'est moi, donc il s'était avancé vers les soldats, mais c'est Pierre, et apparemment lui seul, en tout cas le récit ne parle que de lui, c'est lui qui s'était interposé, qui avait cherché à s'interposer, il y avait une troupe en face, c'était pas un petit guignol avec une petite fronde, une petite fronde, non, c'est allusion du coup des textes bibliques, c'est pas un bon exemple, avec un petit bâton qui disait maintenant Jésus t'arrête, non, il y avait une troupe de soldats qui était là, équipée, dit le texte, de lanternes, de torches et d'armes. Verset 3, c'est lui, Pierre, c'est lui qui avait tiré l'épée. Et c'est lui qui avait fait couper l'oreille. Et je suis étonné parce que le récit ne raconte pas qu'il y a eu de représailles, mais attends, on coupe l'oreille quand même d'un soldat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est pas tout, parce qu'il n'a pas pris la fuite, il a suivi les soldats. Donc j'ai envie de dire, voilà quand même un homme qui est investi, qui est attaché au moins un minimum à Jésus, et qui paraît courageux, qui paraît fidèle, même s'il en arrive au bout du compte, sur le pas de la porte, comme au coin du feu, à être aussi comme dépassé par les événements qu'on le voit vulnérable au froid. Et c'est bien sûr à droite le captif qui lui est directement menacé, qui est ballotté de droite à gauche justement. C'est lui bien sûr qui emporte, qui appelle à la méditation et qui emporte l'admiration. Car autant ce petit bout de récit que ce qui précède témoigne de sa conscience que, comme le dit le texte que j'ai lu la dernière fois, l'heure était venue pour lui de quitter ce monde. Mais c'est plus que la conscience, c'est combien il y consent. Combien il a tenté de préparer les disciples pour ça. Et ce qui me frappe en tout cas dans ce récit, c'est qu'au moment où ça arrive, Jésus fait sentir, et Jean nous fait sentir, combien rien de ce qui se passe ne prend Jésus par surprise. Et je voudrais l'illustrer, il y a au moins quatre éléments du texte qui le font apparaître. Le premier se trouve au verset 11. Alors du coup, je suis un peu perdu, c'est ça. On n'a pas lu ça, mais c'est juste avant. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Autrement dit, c'est ça qui doit se passer. C'est ça que je dois faire. C'est ça que je choisis de faire. Tant et si bien que Jésus s'interpose entre Pierre et les soldats. Pierre qui vient s'interposer entre lui et les soldats, Jésus s'interpose entre Pierre et les soldats qui viennent l'arrêter. « Ne résiste pas, dit-il à Pierre, ne t'étonne pas, ne lutte pas. Laisse-moi emprunter le chemin qui est le mien. Laisse-moi remplir la mission qui est la mienne. » C'est écrit. Et au chapitre 10, au verset 18, on lit « Ce n'est pas eux qui me prennent la vie, c'est moi qui la donne. » Pas de surprise. Deuxième élément du texte, au moment de l'arrestation aussi. « Qui cherchez-vous ? Jésus le Nazoréen. » Jésus dit « C'est moi. » Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez les disciples, mes disciples s'en aller. C'était, commande Jean, pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Et Jean renvoie à des paroles que Jésus avait prononcées auparavant, chapitre 6. Bien longtemps avant, il disait déjà, il voyait déjà, bien longtemps avant, et la trahison d'un disciple, et le fait qu'il chercherait à protéger les autres. Et Jean, en nous disant ça, dit au lecteur, mais sois attentif, rappelle-toi, Jésus l'avait dit, je te l'avais dit, comme on le dit aujourd'hui, je te l'avais bien dit. Alors qu'est-ce que tu entends aujourd'hui en écoutant ce récit? Comment est-ce que ça résonne en toi? Ce n'est pas une surprise, nous dit encore Jean, en faisant un autre lien avec ce qui avait été dit bien avant. Jésus, lisons-nous ici, est amené chez un certain Anne. Et Anne nous fait entendre Jean, c'est le beau-père de quelqu'un dont je t'ai déjà parlé. Quelqu'un qui avait donné un conseil, qui n'avait rien à voir avec les disciples, mais qui avait donné dans son cadre de proximité, un conseil. Il a dit, il est avantageux qu'un homme meure pour le peuple. Et Jean nous dit, mais je te l'avais dit alors. C'est que ce beau-père, sans en avoir conscience, en prononçant ces paroles, avait prophétisé. Il avait dit qu'il fallait que Jésus meure pour le peuple. Donc il avait déjà donné, sans le mesurer, sans en avoir aucune conscience, le sens des événements qui sont en train de se produire. Lecteur, je te l'avais dit, je te l'avais bien dit, je te le fais sentir à nouveau. Alors qu'est-ce que tu entends en lisant ce récit? Comment est-ce que ça résonne aujourd'hui pour toi, devant le récit et dans ton histoire à toi? Troisième élément, et ce n'est pas une surprise, alors là c'est un peu différent et ça m'a touché, intéressé, interpellé. Ce n'est pas une surprise, nous laisse découvrir tout seul Jean. Je vais y revenir. Car même un reniement, puis un deuxième, puis on lit un des esclaves du grand prêtre qui était parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille dit « Est-ce que je t'ai pas vu, moi, dans le jardin avec lui ?» Pierre le nia encore. Et aussitôt, un coq chanta. Car je reconnais ici l'écho d'une parole que Jésus a prononcée quelque temps auparavant. Pierre avait annoncé, fort de courage, « Mais je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Au chapitre 13, et Jésus alors avait répondu, « Mais avant que le coq se mette à chanter, tu m'as nié trois fois. » Donc j'ai dit, Jean nous laisse découvrir. Parce que ce que ce récit donne à méditer, c'est que, à la différence des autres mentions où Jean disait, vous voyez bien, je vous l'avais dit que... Là, Jean n'attire pas l'attention dessus. Avant, il avait dit, souvenez-vous, Anne, c'était celui qui avait prononcé cette parole. Là, Jean ne le fait pas. Et puis Jean ne tient même pas le compte, si je puis dire. Il a renié une fois, vous avez noté? Ah, il a renié deux fois, trois fois. Jean ne renvoie pas le lecteur à ce texte de Jean 13. Il laisse le lecteur le voir tout seul. Ou passer à côté. Et je me suis dit, mais ça aurait été tellement facile de le faire apparaître, de le faire voir davantage. De le faire sentir davantage. De faire peser cela sur le lecteur. Peut-être Jean s'est abstenu de le faire, je ne sais pas. En tout cas, il ne le fait pas. Et je trouve ça d'autant plus frappant ici que c'est peut-être ce moment, cette histoire de coq, je peux employer cette expression, que c'est peut-être le moment le plus spectaculaire du récit, pour moi. Car je me suis dit... C'est peut-être pas très surprenant que Jésus ait annoncé son arrestation et sa mort, vu les troubles qui se passaient autour de lui. C'est peut-être qu'une question de temps. Peut-être s'il connaissait suffisamment ses disciples pour sentir qu'il y avait l'un d'entre eux là qui était pas bien et qui prenait de la distance et qui risquait bien de se retourner contre lui un de ces jours. Peut-être. Et peut-être c'est pas si surprenant que quelqu'un ait pensé au phénomène du bouc émissaire. Il vaut mieux que quelqu'un prenne tout sur la tronche, à notre place. Enfin, parce que de tout temps, on mesure bien que c'est commode de désigner un coupable pour résoudre les problèmes. Il y a un problème quelque part, mais on va en trouver un, et puis on va lui tirer dessus. C'est lui le coupable. Voilà, et puis c'est bon, c'est réglé. Un personnage, une figure qu'on rend responsable. Donc la parole de... Comment il s'appelle? C'est de Caïphe, la parole qui a été prononcée, la parole de Caïphe, n'est peut-être pas très, très surprenante. Et je peux entendre aussi que donc qu'il est peut-être moins surprenant que la prophétie sur la, je vais perdre aucun des disciples s'accomplisse parce que Jésus s'investit justement pour qu'elle s'accomplisse. Il s'interpose, non, laissez-les partir. Donc Jésus n'est pas témoin de quelque chose qui lui échappe. Non, là, il s'investit dedans. Donc il autoréalise sa prophétie. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça, peut-être, je ne vous demande pas de dire ça, j'ai dit que c'est... On pourrait l'imaginer, je peux l'entendre. Ok, peut-être. Mais avoir pu prédire que le courageux Pierre le renierait, avoir pu dire qu'il le renierait trois fois, et avoir pu dire que c'est à ce moment-là que le coq chanterait, alors là c'est un peu plus déroutant pour moi. Et c'est pour ça que je trouve d'autant plus frappant que Jean choisisse à ce moment-là de ne pas dire « Vous voyez, je vous l'avais bien dit !» Il laisse le lecteur le voir ou passer à côté. Aussitôt, un coq chanta. Lecteur, est-ce que tu l'entends ? Est-ce que tu entends tout ce qui retentit quand le coq chante ? À part un chant du coq. Alors aujourd'hui, nous qui lisons ce texte, nous sommes placés devant ces deux figures. D'un côté, celle de quelqu'un qui semble à la fois le plus démuni et à la fois le plus confiant que tout ce qui se produit ne fait que correspondre au projet de Dieu et qui y consent. Et de l'autre, celle d'un homme courageux qui semble à ce moment-là comme lâcher prise, dérouté par tout ce qui se passe, dérouté qu'il faille en passer par là. C'est sans doute, je ne sais pas comment ça se passe pour lui, mais c'est sans doute incompréhensible pour lui. Et peut-être et probablement, je crois que d'autres évangiles le montrent, qui est dérouté et qui est dégoûté, peut-être de se voir lui-même déchoir, de se voir lui-même renoncer à parler de Jésus. Ah, c'est pas moi, hein, c'est pas là, ni vu ni connu, pas vu, pas pris, pas concerné. Et ce passage d'évangile, en nous mettant devant ces deux figures, nous place peut-être devant notre situation contemporaine. J'ai pris une scène de la vie ordinaire. Aux circonstances que nous traversons aujourd'hui, faciles ou difficiles, qui sont les nôtres, nous observons ce récit, nous observons les deux personnages un peu de l'extérieur, à distance. Mais ne nous arrive-t-il pas aussi d'être traversés par des questionnements ? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment là ce que je traverse. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que les choses... Excusez-moi le langage. Pourquoi est-ce que les choses se cassent la gueule ? Pourquoi, disait Pierre probablement, mais pourquoi il fallait pas que je prenne l'épée? Pourquoi il fallait pas le défendre? Peut-être est-ce que je fais bien, aujourd'hui encore, de continuer à suivre Jésus? Eh bien, j'arrive pas à voir comment le projet de Dieu, là, s'accomplit dans cette situation. Je n'arrive pas à donner sens à un silence, peut-être, de Dieu. Ou bien j'arrive pas à donner sens à tel comportement. Regardez Pierre, mais c'est pas possible. Il était assis à côté de moi à l'église dimanche. Pierre, tu es pour rien, toi. Je pense à Pierre du récit. Mais voilà, si Pierre du récit avait vécu à notre époque, il serait peut-être assis à côté de nous à l'église dimanche. Mais comment il a pu faire ça? Comment est-ce que ça sert le projet de Dieu, tout ça? Donc devant Jésus et Pierre, je suis... pour ce qui me concerne, en tout cas, extrêmement frappé, autant parce que je vois de la faiblesse et de la perplexité humaine qui est incarnée par Pierre, et autant frappé par cette espèce de confiance de Jésus, que rien du tout de ce qui se produit n'échappe au projet de Dieu. Et en tout cas, pour ma part, cette confiance de Jésus, elle contribue à me donner confiance pour traverser ce qui est de l'ordre de ma faiblesse à moi et de ma perplexité. Et ce qui alimente, il y a deux éléments du récit aussi qui alimentent cette confiance, en plus de la confiance que Jésus incarne. Je suis déjà porté à la confiance quand je vois justement que dans le récit, Jean parfois explicite les choses et il le fait de manière suffisamment apparente pour qu'on entende bien que ce qui se passe là, c'est pas par hasard, donc il le fait bien apparaître. Il est en train de se réaliser ce qui avait été dit. Mais ça compte autant pour moi qu'à certains moments, au moins, il se retienne d'expliciter les choses. Qu'il laisse le lecteur découvrir, qu'il laisse comme une liberté au lecteur de voir ou de ne pas voir. C'est comme s'il s'adressait à nous en mettant en avant et en même temps sans imposer trop, sans insister, comme s'il me laissait la liberté, à partir de ce qui est dit explicitement, d'entendre ou pas ce qui est dit aussi, mais peut-être moins explicitement. Je pense à une phrase de Pascal, je crois, Blaise Pascal. pas Pascal. Les homonymes entre Pierre et Pascal, c'est un peu compliqué. Il y a assez de lumière pour ceux qui veulent voir. Il y a assez d'obscurité pour ceux qui veulent ne pas voir. Donc, mais en tout cas, cette liberté que Jean nous laisse de voir ou de ne pas voir, ça me porte à la confiance. Il n'en fait pas trop. Et je crois qu'on se méfie parfois de ceux qui en font un peu trop. Pourquoi tu es encore en train de parler de ça, de t'expliquer encore à nouveau, mais... Et à un moment donné, ça va, puis à un moment donné, ça va plus, on en fait trop. Le deuxième élément qui me donne confiance, c'est l'ensemble du récit. C'est quand même extrêmement frappant que l'Évangile nous raconte cette histoire. Il nous parle de Pierre et de la trahison de Pierre. Je mesure en le lisant combien l'Évangile ne donne pas un portrait idéal de la foi chrétienne et de ceux qui l'ont adopté. Parce que l'Évangile ose nous raconter ici combien une des figures de proue du christianisme primitif, qui plus est, qui est un homme courageux, qui est un homme investi, était aussi un homme qui a fait défection. À trois reprises, devant des personnages secondaires. Et ça au moment même où Jésus, lui, tenait ferme. Et je trouve ça extrêmement fort, pour moi extrêmement frappant, parce que les secrets de famille, c'est pas quelque chose dont on peut être fier. Les secrets de famille, on a tendance plutôt à les mettre sous le tapis, là. On ne peut pas en entendre parler, ça n'existe pas, non, non. Le cousin tel ou tel, il n'existe pas, on n'en parle pas en famille, en discrétion. Le comportement de Pierre, désolé, c'est pas vendeur. Hein. Ça ne donne pas envie. J'ai pas envie d'avoir Pierre pour pasteur. J'ai pas envie d'avoir Pierre pour ami. J'ai pas envie qu'il soit assis à côté de moi dans l'église. J'ai même pas envie de dire que je le connais. Non, je le connais pas. Pour le coup, je fais comme Pierre, mais bon. Ça a un autre sens. Parce que Pierre, il me fait honte. Comme aujourd'hui, il y a parfois, combien il y a de quoi être déçu devant notre propre comportement à nous, ou devant le comportement d'autres personnes, d'autres chrétiens dans l'église ou dans d'autres églises, devant le comportement de tel ou tel responsable d'église. Pierre était précisément à l'époque un des piliers, voire le pilier principal du christianisme primitif. Et même, je nous rappelle, que notre Nouveau Testament que nous lisons, et dans le Nouveau Testament, il y a deux lettres de Pierre. Donc c'est pas rien. Dans la suite de l'histoire, on fera de lui le premier pape. Donc, pour dire que quand même, on reconnaît en lui un personnage particulier. Eh bien, l'Évangile ne nous dit pas, Pierre, il était génial, il était bon tout le temps. Regardez-le, admirez-le. Ouais, on a Pierre, il fait partie de notre groupe. Hein. Combien elle est belle, combien il est beau, Pierre, combien elle est belle, l'Église. Combien ils sont beaux, les premiers chrétiens. Toujours contents par la pluie ou par le beau temps. C'est un cantique. Ça, c'est vendeur. Ça serait vendeur, mais c'est pas ce que l'Évangile fait. Ça aurait été tellement facile de le mettre sous le tapis, de cacher que le plus héroïque, il n'était pas à la hauteur. Pas forcément de le cacher, mais de ne pas le raconter, surtout pas dans la Bible, qui va être lue pendant 20 siècles encore. Non, mais c'est bon, quoi. Et nos comportements d'aujourd'hui aussi, nos archives d'église ne sont pas toujours belles à voir. Et aujourd'hui encore, dans l'église, on préfère mettre en avant les exaucements de prière. Et vous voyez, assistons-nous, le Seigneur répond aux prières. Ça marche, priez. Et parfois, on en fait des tonnes pour insister. L'Évangile, en tout cas ici, et puis aussi dans d'autres endroits, joue une autre carte. Une carte de vérité. Alors, il parle aussi des exaucements de prière, quand il y en a. Mais il joue une carte de vérité, et je me dis qu'il fait écho pleinement à ce que Jésus dit dans le texte. J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les juifs se rassemblent. Et je n'ai rien dit, en secret. Alors pour moi, l'Évangile sonne vrai. En mettant devant nous, à gauche et à droite, autant la beauté que la saleté. Et cette conjugaison fait que je peux entendre, pour moi aujourd'hui en tout cas, une invitation extrêmement forte du texte, parce que j'y entends que même la saleté, même la trahison, même ce qui nous déroute, qu'on ne comprend pas, fait partie, quelque part, du projet de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que Dieu sera content. C'est le mal qui nous déroute. Ça veut dire que ça ne lui échappe pas. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que chacun fait de ça? Est-ce que nous sommes prêts à entendre et à continuer à emboîter le pas à Jésus, même s'il y a de la perplexité, parfois? Je vous invite juste à faire silence.